Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des cours à distance seront de nouveau possibles dans les lycées en alternance avec du présentiel. Annonce du ministre de l'Éducation nationale pour tenter de calmer la colère d'une partie des élèves et du monde enseignant en plein rebond de Covid-19. Le bac est aussi modifié cette année, vous l'entendrez.
Cette deuxième vague de Covid-19 est brutal et il y a une lassitude qu'il faut combattre. Le gouvernement a aussi appelé les Français à surmonter l'amertume du deuxième confinement. Verbatim de la conférence de presse d'hier soir dans ce journal.
Nous rejoindrons ensuite notre envoyé spécial à Washington pour faire un point sur la présidentielle aux États-Unis. C'est toujours très serré en Pennsylvanie notamment, où le démocrate Joe Biden rétrécit l'écart avec le président sortant. Donald Trump qui lui s'impatiente. Cette nuit, il s'est attribué la victoire et a dénoncé des fraudes. Sans en apporter la preuve, vous l'entendrez.
Après cette édition, Stéphane Robert consacrera son billet politique à l'amour vache entre les États-Unis et la France.
Et avant cela, Guillaume, nous ferons un retour sur les annonces du gouvernement hier qui veut doubler les forces de l'ordre aux frontières de la France et qui plaide pour refonder l'espace Schengen. Jean-Michel Blanquer revoit donc sa copie dans les lycées. Les élèves ne seront finalement pas obligés d'être en classe tout le temps. Le ministre de l'Éducation nationale les a, semble-t-il, entendus, jusqu'à céder donc face à leurs inquiétudes. Des cours à distance pourront être organisés pour moitié, le reste est toujours en présentiel. Le baccalauréat est également modifié. Il s'agit d'éviter une trop grande circulation du Covid-19 à Kim Kasmi.
Avec la réforme du bac et la mise en place des spécialités, difficile de respecter le nombre à stage des élèves en cours, dans les couloirs ou encore à la cantine. Face à ce constat, Jean-Michel Blanquer a donc décidé de mettre en place l'hybridation des cours uniquement au lycée. Une décision que salue Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Plutôt une journée A, une journée B. Éviter, me semble-t-il, plutôt de jouer sur les semaines. Nous sommes assez partisans d'essayer d'avoir une alternance la plus serrée possible, parce qu'on considère que plus souvent nous verrons les élèves, plus facilement on évitera les décrochages.
Une crise sanitaire qui oblige également le ministère de l'Éducation à revoir le calendrier des épreuves du bac, puisque les épreuves communes seront annulées et remplacées par le contrôle continu. En revanche, les épreuves de spécialité seront-elles maintenues ? Une décision que ne comprend pas Frédéric Ollet, secrétaire général du SNES, qui dénonce le manque d'anticipation du ministre de l'Éducation.
On refuse, encore une fois, de voir que la réforme, de toute façon, complique énormément les choses. Le brassage, le fait qu'il y ait pratiquement 60-70% du temps des élèves qui ne soient plus en classe, mais qui soient dans des groupes très fluctuants, fait que le brassage est évidemment assez constant. Et puis, nous avions dénoncé le fait qu'on était dans une évaluation un peu permanente. Maintenant, avec la réforme, on voit bien que, en plus, dans le contexte sanitaire difficile, ça ajoute au problème.
Enfin, en ce qui concerne les lycées professionnels, où un grand nombre de matières doivent se faire impérativement dans un atelier, comme la mécanique ou la chaudronnerie, Jean-Michel Blanquer les autorise à rester en présentiel, à condition qu'il y ait assez d'espace pour respecter la distanciation entre les élèves.
Et notez que le SNES-FSU maintient sa journée de grève qui est prévue mardi prochain. Le principal syndicat du secondaire évoque également un risque de fracture face à l'équipement informatique chez les élèves, ainsi que des conditions difficiles dans les collèges que Jean-Michel Blanquer n'a pas évoquées hier. Un ministre qui cède à un protocole sanitaire sans cesse réévalué, avec en toile de fond une vague qui ne cesse de grossir. Voilà pour le tableau du jour que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a légèrement retouché hier soir. La deuxième vague, a-t-il dit, est brutale et rapide. Selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, la France est même désormais le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas de Covid-19. Tara Schlegel, vous avez suivi pour nous cette conférence de presse hebdomadaire.
La vague est très haute, très forte, ont dit le ministre Olivier Véran et son directeur général, qui précise que la vitesse du virus n'a pas vraiment ralenti. Prenons un R qui serait à 1,3, dit Jérôme Salomon, et on double pratiquement le nombre de transmissions tous les 15 jours. Or, 20% des 2 millions de tests qu'on fait chaque semaine en France sont positifs. Ça fait plus de 58 000 cas avérés détectés hier. 447 personnes admises en réanimation sur les dernières 24 heures et un patient sur quatre ne survivra pas à son passage en réanimation, dit Jérôme Salomon. La situation se détériore chaque jour. Sur un ton un peu moins dramatique, il faut le dire, mais en insistant sur le travail de transparence du gouvernement, Olivier Véran a ensuite détaillé comment 85% de nos capacités actuelles de réanimation sont occupées. 4000 patients Covid plus 3000 malades d'autres choses égale 85%. Sachant qu'on a déjà sensiblement augmenté ses capacités de réa, puisqu'avant la crise, je le rappelle, il n'y avait en France que 5000 lits de réanimation. Mais les personnels sont là, dévoués, insiste le ministre. 12 000 professionnels qui sont volontaires pour venir en renfort dans les hôpitaux, dans les EHPAD. EHPAD qui sont cette fois-ci particulièrement frappés. 15% des maisons de retraite ont déclaré des cas Covid, souligne le ministre de la Santé. Et c'est sans commune mesure avec la première vague. C'est sans doute ce qui rendra cette deuxième particulièrement meurtrière.
Olivier Véran qui n'a par ailleurs pas annoncé de nouvelles restrictions hier, mais il appelle toujours les Français à l'autodiscipline. Sachez qu'à Paris, les activités de livraison et de vente à emporter sont désormais interdites à partir de 22h tous les soirs. Cette épidémie de Covid-19 bat encore des records aux États-Unis depuis deux semaines et hier également, alors que dans le même temps, le pays est en plein suspense électoral. La présidentielle a eu lieu mardi, vous le savez, mais en ce vendredi matin, aucun nom n'est encore officiellement accolé au titre de 46e président des États-Unis. Les dépouillements se poursuivent. Joe Biden, côté démocrate, a toujours entre 253 et 264 voix accordées par les grands électeurs. Il en faut 270 pour pouvoir entrer à la Maison Blanche. Les écarts se réduisent comme peau de chagrin dans trois États au moins. 18 000 voix d'écart, par exemple, en Pennsylvanie entre Joe Biden et Donald Trump. Les courbes pourraient s'inverser en faveur du démocrate. Donald Trump, lui, avec ses 214 grands électeurs pour le moment, fait monter la pression avec des recours en justice, nous le disions dès hier matin. Et le président sortant a pris la parole cette nuit, s'enlisant dans ses accusations de fraude.
J'ai dit avec force que les votes par correspondance finiraient par être un désastre. Ça a été désastreux lors de petites élections, et là c'est une version à grande échelle, et ça empire chaque jour. On entend parler d'histoires horribles. On ne peut pas laisser ça se produire aux États-Unis. Ce n'est même pas la question de qui a gagné, républicain ou démocrate. Joe ou moi, on ne peut pas être ainsi déshonoré par ce qui se passe. Donc ça va sans doute passer par la justice. Comme vous le savez, j'ai revendiqué des États, lui en revendique aussi, donc on peut le faire tous les deux, mais à la fin, mon sentiment, c'est que les juges vont devoir trancher. Mais il y a eu beaucoup de magouilles et on ne peut pas soutenir ça dans notre pays.
Jean-Marc Four, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Washington. C'était un discours particulièrement fou cette nuit. Peut-on dire en substance que Donald Trump sait déjà qu'il a perdu ?
Nous sommes en présence d'une situation volatile, dangereuse. Il faut imaginer le clan Trump comme une sorte de camp retranché à la Maison Blanche. Le président est un animal blessé. Il sait sans doute, oui, qu'il est en train de perdre et il ne veut pas perdre. C'est pour cette raison qu'hier soir, lors de cette déclaration surréaliste truffée de mensonges, il a qualifié d'illégaux tous les bulletins de vote qui peuvent le faire perdre. En particulier en Pennsylvanie où Joe Biden, vous le disiez, est en train de renverser la vapeur. Il n'a plus effectivement que 18 000 voix de retard. Il reste 160 000 bulletins de vote à dépouiller qui devraient lui être favorables parce que ce sont des votes par anticipation dans les zones urbaines. Le clan de Trump aux abois devient même menaçant. Son ex-conseiller Steve Bannon a même appelé hier soir, je cite, écoutez bien, à décapiter, oui, à décapiter le docteur Fauci, l'homme qui dirige la lutte contre l'épidémie aux États-Unis. Plus grave encore, les partisans de Trump boivent ses paroles, ils prennent tout ce qu'il dit comme argent comptant. On a donc vu ici et là, hier soir, des gens descendre dans la rue pour dénoncer une fraude électorale juste parce que le président l'a dit, sans avancer aucune preuve, mais il l'a dit, donc c'est vrai, ça peut conduire à des violences.
Et quelle est, Jean-Marc, dans ce scénario, la responsabilité du parti républicain ?
Elle est écrasante. Le grand old party, comme on le surnomme, doit choisir finalement entre protéger un homme et protéger la démocratie. Et le parti semble hésiter. Certains élus comme Ted Cruz continuent de soutenir Trump. D'autres élus, comme celui du Texas, Will Hurd, prennent désormais ouvertement leur distance avec Trump en qualifiant sa position de dangereuse. Les élus républicains de Pennsylvanie sont choqués par la mise en cause par le président de la fiabilité du processus de dépouillement dans leur État. Et dernier fait révélateur, plusieurs médias conservateurs, le New York Post, Fox News, rejettent les propos de Donald Trump. Ils se refusent à relayer ses allégations sur une prétendue fraude dans les États-clés. C'est un signe.
Merci beaucoup pour cette analyse, Jean-Marc Four, en direct depuis Washington ce matin. Pendant ce temps, plus au nord, à moins de 200 km sur la côte est toujours, la ville de Wilmington, Delaware, fief de Joe Biden. Le démocrate s'était adressé un peu avant le président Donald Trump à ses supporters hier soir, leur demandant de rester calme. Nous retrouvons dans le Delaware Claude Guibal. Claude, à Wilmington, on attend toujours patiemment.
Oui, c'est vraiment une longue attente dans cette ville, Wilmington, cette ville de Joe Biden, où tout le monde le connaît et où le candidat démocrate peut compter sur le soutien de nombreux habitants comme Bob, rencontré au coin de la 11e avenue.
Je suis un fan de Biden. Je suis resté réveillé toute la nuit car les résultats tombaient et je me disais « Wow !» Mais quel que soit le vainqueur, il faut qu'on avance pour que le pays aille mieux. Ça ne peut pas être pire que ce que c'était. Ça ne peut qu'aller mieux. Il faut qu'on soigne notre nation.
Ici, à Wilmington, tout est prêt au cas où. Cette scène, au bout de ce parking du Chess Center où nous nous trouvons actuellement, cette scène avec ce drapeau immense et on ne voit que lui dans cette nuit déserte. Joe Biden, lui, eh bien, il est à une dizaine de kilomètres d'ici, dans sa maison, cachée dans les bois avec son clan retranché autour de lui. Il y a quelques heures, le candidat démocrate, vous en parliez, s'est à nouveau adressé à ses électeurs.
La démocratie, c'est parfois brouillon. La démocratie exige parfois un peu de patience. Nous n'avons aucun doute, Kamala Harris et moi, que nous serons déclarés vainqueurs. Je demande aux gens de rester calmes. Le processus fonctionne, le décompte est en cours et nous serons bientôt fixés.
Joe Biden, vous l'entendez confiant mais prudent, le ton vous l'entendez est sobre, comme si le candidat démocrate avait décidé de se positionner radicalement en antithèse de Donald Trump, son adversaire dont il n'a plus prononcé le nom dans ses prises de parole depuis qu'a commencé cette interminable nuit électorale qui dure depuis des jours.
Claude Guibal à Wilmington avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Cette présidentielle aux États-Unis reste en une toujours de notre site internet ce matin avec des résultats, je vous le rappelle, très serrés. Il y a notamment un article sur les électeurs ruraux, latinos et afro-américains qui ont voté pour Donald Trump cette année. C'est sur franceculture.fr. Et si le suspense reste entier à la Maison Blanche, le monde tourne toujours autour. Sachez qu'il y a quelques jours, le gouvernement américain fustigeait Pékin et son traitement des Ouïghours, minorité musulmane en Chine. Nous irons sur place auprès des Ouïghours sur France Culture ce soir pour le grand reportage de la rédaction à partir de 17h. Ouïghours de Chine, l'effacement programmé d'une minorité, c'est ce que nous dira Alain Lebovitch. Un grand reportage réalisé grâce à Jean-François Braun, présenté par Aurélie Kiefer à 17h.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron était au Pertus hier, à la frontière franco-espagnole.
Oui, pour parler contrôle aux frontières et lutte contre le terrorisme, le chef de l'État a annoncé le doublement des effectifs de contrôle. Il multiplie en fait les démarches pour renforcer la lutte contre le terrorisme, je vous le disais, depuis les récentes attaques et surtout au niveau européen, Laura Dulieu.
Les récentes attaques terroristes à Nice et à Vienne ont fait apparaître des lacunes dans la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. L'homme à l'origine de l'attaque à Nice est un Tunisien, arrivé clandestinement par Lampedusa en Italie, tandis que celui à l'origine de l'attentat à Vienne avait été signalé aux autorités autrichiennes par la Slovaquie, signalement qui n'avait pas été pris en compte. Voilà ce qui explique la multiplication des démarches d'Emmanuel Macron pour renforcer cette coopération européenne. En plus du doublement des effectifs à la frontière franco-espagnole, le président français plaide pour une refonte des règles de l'espace Schengen.
Je suis favorable à ce que nous refondions en profondeur Schengen pour en repenser l'organisation, pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures de l'espace, en renforçant aussi l'intégration de nos règles et en réussissant à construire aussi un fonctionnement conjoint de nos ministres en charge justement de l'intérieur et de la sécurité pour que l'Europe fonctionne de manière beaucoup plus intégrée sur ce sujet.
Emmanuel Macron fera cette proposition lors du Conseil européen de décembre. Il doit également s'entretenir en début de semaine avec le chancelier autrichien, toujours à propos de la lutte antiterroriste. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rend de son côté aujourd'hui en Tunisie et demain en Algérie à ce sujet. L'enjeu, c'est donc bien de se montrer en première ligne face au terrorisme dans une période où le discours contre l'islamisme radical s'est durci depuis l'assassinat de Samuel Paty, discours qui contrarie en parallèle une partie du monde musulman.
Laura Dulieu qui évoquait à l'instant la visite programmée aujourd'hui de Gérald Darmanin à Tunis. Allons sur place justement, car l'auteur présumé de l'attaque à Nice la semaine dernière est un Tunisien âgé de 21 ans qui a traversé la mer Méditerranée clandestinement. La France veut obtenir de la Tunisie qu'elle accepte le retour d'une vingtaine de Tunisiens radicalisés que Paris considère comme un danger et que Paris veut donc renvoyer. Maureen Mercier.
Ils sont une vingtaine, tous arrivés clandestinement, tous ont été condamnés par la justice française. La plupart ont purgé leur peine. Pour les autorités, ces Tunisiens constituent une menace, d'où la volonté de les renvoyer sans délai. Une opération impossible sans un laissez-passer consulaire délivré par les autorités tunisiennes. Ce document est nécessaire pour le retour de tout migrant tunisien sans papier. Mais aujourd'hui, seul un peu plus de la moitié des demandes faites par Paris aboutissent. Gérald Darmanin entend faire comprendre aujourd'hui à Tunis qu'il faut, en général, accélérer le rythme pour délivrer ces laissez-passer et en particulier les délivrer rapidement pour cette vingtaine de Tunisiens radicalisés. Autre point que le ministre de l'Intérieur abordera avec les autorités tunisiennes, l'enquête sur l'auteur présumé de l'attentat de Nice. A-t-il traversé la Méditerranée dans le but de commettre un attentat sur le sol français? S'est-il radicalisé en Tunisie? Si tel est le cas, comment expliquer qu'il ait échappé à la vigilance des autorités? Gérald Darmanin a demandé à rencontrer tous les dirigeants qui comptent sur ce dossier, du chef de l'État Kais Saied au ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, en passant évidemment par le Premier ministre Hichem Mechichi. Ici, à Tunis, la population, comme les autorités, craignent le retour de ces radicalisés.
C'était Maureen Mercier depuis Tunis pour France Culture. Je précise enfin ce verdict hier à la Cour d'assises spéciale de Paris. Sid Ahmed Glam, condamné à la réclusion à perpétuité. Cet étudiant algérien a été jugé pour l'assassinat d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, en avril 2015, ainsi qu'à un projet d'attentat avorté. Le temps de ce lundi, de ce vendredi, pardon, en France métropolitaine, ce sera grosso modo la même chose qu'hier jeudi, avec des bandes brouillard ce matin sur le nord-est et un grand soleil ailleurs. Il fait 4 degrés à Lille ce matin, 5 degrés à Paris, 12 à Bordeaux, 16 degrés à Nice, Guillaume.
Merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal.